Vous écoutez
RMC. Les grandes gueules du sport passent la seconde. RMC, la flamme rouge.
Valentin Paré-Peintre qui vient chercher une victoire sur le Tour d'Italie. Il n'en croit pas ses yeux. Valentin Paré-Peintre remporte la première étape de cette deuxième semaine du Tour d'Italie.
Faut pas se laisser voler, mon petit. Jamais.
Zinglet, ouais, qui, oh là, qui a fait la différence. Allez. Et il va aller chercher cette première victoire d'étape.
Ah, oui, oui.
Le jeune Français, voilà, troisième des championnats de France et qui s'impose ici pour la première étape de cet Arctic Race of Norway.
Ce pillage est inadmissible. C'est la coutume ici. Ça s'appelle du vol.
Ça passe comme vient de faire Romain Bardet, ça peut le faire.
Ça va le faire
pour Lenny Martinez qui va aller charger le maillot rouge. Aujourd'hui, à 20 ans, le môme, deuxième de l'étape de Rabalambré et nouveau maillot rouge.
Les Anglais luttèrent magnifiquement contre les envahisseurs, mais en vain.
Dans moins de 5 ans, 60% des équipes françaises auront disparu. La semaine dernière, dans Ouest France, Emmanuel Hubert, manager général de l'équipe Arkéa B&B Hotel, a tiré la sonnette d'alarme. Le modèle du cyclisme français n'est plus viable, selon lui, étranglé par les coûts, les charges et incapable d'attirer des grands noms et surtout contraint de laisser partir leurs pépites. La musique qui fout les jetons. Et cette question, dans les grandes gueules du sport, les équipes françaises sont-elles condamnées? Oui ou non? Marc Madiot.
Non.
Christophe Cessieux.
Ouais, si on ne bouge pas les choses, elles sont condamnées.
Fred Weiss.
En l'état, oui.
Jérôme Pinault.
Oui.
Avant de débattre, on va retrouver la voix du vélo sur RMC. Arnaud Souk, salut Arnaud.
Salut les amis.
Mais oui, je le disais, cet été, nos équipes françaises se sont encore fait piller les talents. Hein.
Oui, à commencer par le jeune Lenny Martinez. Il est la fuite la plus médiatique, la plus remarquée de l'année dans le cyclisme français, formé au sein de la Groupama FDJ. Le jeune coureur de 21 ans aux 6 victoires professionnelles a décidé très tôt qu'il ne renouvellerait pas son contrat avec l'équipe française. Attiré par les quelques millions d'euros que Bahrain Victorious est en mesure de lui offrir sur les 3 prochaines saisons. Une fuite qui a fait moins de bruit, celle du vainqueur d'étape sur le Giro cette année, Valentin Paré-Peintre, rejeton de la formation Décathlon à G2R la mondiale. Le Haut-Savoyard va lui aussi renforcer une équipe étrangère, pas forcément la plus argentée, mais l'une des plus prestigieuse en l'occurrence, la Soudal Quickstep, où ses talents de grimpeur devraient faire le bonheur entre autres du leader belge Remco Evenepoel. S'il reste, autre équipe, autre départ vers une formation étrangère, celui d'Axel Zingleux. Il quitte Cofidis pour Visma Lissebike, où il pourra à coup sûr mettre à profit ses talents dans les courses d'un jour. Il retrouvera notamment Christophe Laporte qui avait fait le même chemin il y a 2 ans. Ajoutez à cela les départs de coureurs étrangers de talent, celui de l'Australien Ben O'Connor, du Néo-Zélandais Laurence Spiti, ou encore l'incapacité pour une équipe française à recruter Julien Alaphilippe, passé de Soudal Quickstep à Tudor Cycling, et vous obtenez un bien morne mercato pour les formations tricolores, à peine compensé par l'arrivée chez Groupama FDJ de Guillaume Martin et celle de Dylan Teuns et Alex Aramburu chez Cofidis.
Merci beaucoup Arnaud Souk pour ces précisions. C'est vrai que ça va mal en ce moment pour nos équipes françaises. Sont-elles condamnées? C'est le 32-16, le hashtag RMC Live, l'application RMC Direct Studio. Si vous voulez participer à notre débat, j'ai un nom. On va le laisser tranquille pour l'instant, Marc Madiot. On va écouter plutôt le camp du oui. Christophe Cessieux, pourquoi
alors,
oui?
Alors, c'est pas un oui optimiste et heureux. Hein, je veux dire, je suis inquiet, très inquiet. Marc l'est, même s'il va essayer de nous remonter le moral. Mais moi, j'ai bien peur qu'à l'image de nos clubs français de foot, il y a quelques années, nos équipes cyclistes à terme soient contraintes de quitter elles aussi l'élite du cyclisme mondial et donc le World Tour pour évoluer dans des divisions inférieures avec des coureurs moins clinquants. Arnaud l'a dit, il y a une fuite des talents qui est hallucinante. Tous les jeunes coureurs de talent aujourd'hui évoluent la plupart dans des équipes étrangères. Marc a réussi à garder Grégoire par exemple. Bah, c'est l'un des seuls jeunes talents français sur lesquels on mise qui est encore là. Il y a aussi des jeunes qui ont 17-18 ans qui sont au sein d'autres équipes françaises mais qui risquent de se faire piller dans quelques temps parce que c'est la même raison que pour le foot, c'est les charges patronales qui sont énormes pour les équipes françaises, des équipes françaises qui sont obligées de salarier leurs coureurs et de leur offrir une protection sociale, et ça a un coût de 40% supplémentaire par rapport aux équipes étrangères, des équipes étrangères qui de plus en plus s'adossent à des états ou avec des des sponsors majeurs. Je veux dire, l'arrivée de Red Bull dans le vélo inquiète. Vous avez le Bahreïn, vous avez l'UAE. Ce sont des États qui ont des moyens. C'est comme le PSG avec le Qatar. C'est exactement la même chose. Ils ont des moyens énormes et ils n'ont pas du tout les mêmes charges patronales. Donc, qu'est-ce que vous voulez faire? Comment vous voulez lutter contre ces équipes-là? Et évidemment, les agents s'engouffrent dans la brèche et lorsqu'ils vont proposer des coureurs à des directeurs sportifs ou des managers, eh bien les managers ne peuvent pas s'aligner. Marc va nous en parler, mais le cas Lenny Martinez, c'est terrible. Lenny Martinez est sans doute l'avenir du vélo français. Marc a essayé de le garder, c'est lui qui l'a fait sortir, qui l'a fait passer professionnel. Mais bon, Bahreïn est arrivé avec un énorme carnet de chèques et tu peux pas lutter. Ils ont proposé combien de plus que toi, Marc, pour avoir Lenny?
Il faut poser la question à Lenny.
Ouais, mais enfin, en gros,
oui, mais tu connais la réponse.
Bah, oui, j'ai la réponse, mais je vais pas vous la donner. Mais oui, je la connais.
Oui, mais c'est quoi?
Je pourrais pas jouer.
Voilà. C'est 3 fois plus? C'est 4 fois plus?
C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus.
C'est 10 fois plus?
Pas 10 fois, mais c'est un déséquilibre. On n'avait pas les moyens. Et deux, même si on avait eu les moyens, c'était un déséquilibre énorme à l'intérieur de l'équipe. Donc c'était irréalisable.
Ok, tu tuais ton équipe juste pour un coureur.
Voilà. Très simplement, non.
Mais c'est symptomatique de ce qui se passe actuellement dans le vélo, quand même, du désarroi de nos équipes françaises.
Il y a un désarroi, il y a des appréhensions, il y a des inquiétudes, il y a des difficultés, mais il y a quand même un mais. Quand on refait l'histoire de la vie des équipes cyclistes en France et dans le monde, on passe par des cycles. Il y a eu une époque où les équipes françaises étaient en bonne situation, et d'autres où on est plus en difficulté. On sort d'une période assez faste en termes de nombre d'équipes, en termes de structure et de qualité de course et d'organisation en France. On voit bien qu'on arrive à un plafond, mais qui est lié à l'aspect purement économique de la vie en France. On voit bien que les pouvoirs publics vont mettre moins d'argent dans le sport en général et donc dans le vélo également. Donc on sait qu'on va rencontrer des difficultés, mais c'est cyclique. Pourquoi je garde une bonne dose d'optimisme? Tout simplement parce que le sport cycliste est ancré dans l'ADN du sport en France et dans la vie des Français. J'imagine qu'il est inenvisageable qu'il n'y ait pas d'équipe française de niveau acceptable, par exemple au départ du Tour de France. Il faut quand même préserver ce qui est l'essentiel. La base du cyclisme mondial, c'est quand même la France. Le pays où il y a le plus de courses cyclistes, c'est la France. Le pays où il y a le plus de coureurs cyclistes professionnels, c'est la France. Le pays où il y a le plus d'équipes, c'est la France. C'est un petit problème. Ce qui fait la force du cyclisme français, c'est la cohésion et la cohérence entre les différentes familles du cyclisme français. Les organisateurs, les équipes, les coureurs, la fédération. Aujourd'hui, on a un cyclisme professionnel que le monde entier peut nous envier dans sa structure et dans son organisation. En France, tous ceux qui sont professionnels sont salariés, ont un contrat de travail. Ça n'est pas le cas dans tous les pays. Il y a même des pays où il n'y a plus rien du tout. Regardez l'Italie, il n'y a plus d'équipe pour le Tour. L'Italie est quand même un grand pays de cyclisme. Aujourd'hui, il est désertique au niveau des équipes. Donc,
ben moi, justement, on ne peut pas avoir le même problème.
On ne peut pas avoir le même problème tout simplement parce qu'il y a un ancrage plus fort en France et parce qu'on a le Tour de France qui est la clé de voûte. Et il y a quand même un ancrage très fort dans nos villes et nos villages. Il y a encore des courses cyclistes aujourd'hui. Il y a encore.
Oui, mais regarde, les équipes amateurs sont en train de toutes péricliter.
Oui, elles péricitent. Oui, mais parce qu'on a monté artificiellement le nombre d'équipes amateurs en France pour pouvoir toucher des aides des pouvoirs publics. Il y avait aussi trop d'équipes. De DN1, comme on appelle DN1, DN2, DN3. Mais chez le cas chez les pros aussi, mais on a quand même de quoi faire travailler tous nos coureurs en France et toutes nos équipes avec le calendrier français qui est le premier calendrier mondial. Il faut quand même s'en souvenir.
On vous propose ce débat parce que nous avons avec nous le patron de la Groupama FDJ et puis un ancien patron d'écurie aussi. Tu as dirigé Vital Concept B&B Hotel. Éphémère peut-être, mais bon, tu étais bien au courant de ces sujets-là. Pourquoi tu n'es pas d'accord avec Marc?
Non, je suis pas d'accord avec Marc sur le sujet à moyen terme. Je pense que effectivement la déclaration de Manu Hubert elle est vraie. 60%, ça veut dire qu'il en restera, mais dans le cyclisme français, les gros mangent les petits. Dans le cyclisme mondial, c'est pareil. Si les lois ne changent pas, il y aura moins d'équipes à l'avenir. Je suis pas d'accord avec Marc sur le fait que il y a encore des courses, mais il y en a de moins en moins. Les organisateurs souffrent et vont pas pouvoir continuer longtemps non plus. La base, le réservoir des jeunes eh bien, avec toutes les équipes qui disparaissent à partir du moment où il n'y a pas le talent pour aller dans une équipe réserve, on sent que c'est bloqué. Donc il y aura moins en moins de gamins qui vont rêver sur le bord de la route à aller voir les courses dans le village, parce que les courses de village, la DN1 du coin qui fait rêver le gamin qui est junior, ben, elle n'existe plus. En Bretagne, ça fait 3 de suite, 3 grosses équipes de DN1. Et Marc, je ne suis pas d'accord sur le fait que ça a été monté pour toucher les subventions, parce que ces équipes-là, qu'elles soient Sojasun, que ce soit Marie Morin au Côte d'Armor et encore récemment Morbihan Adris, c'est des équipes historiques et elles ont disparu quand même. Et chez les pros, c'est en train de se faire pareil. Moi, j'ai eu un passage éphémère, il s'est passé ce qui s'est passé, on m'a promis des choses qu'on m'a pas donné, mais au final, ça a pas fait pleurer grand monde qu'on disparaisse, nous, parce qu'il y avait trop d'équipes, et il y a trop d'équipes en France encore. Oui, sur le marché français, oui, sur le calendrier français, mais est-ce qu'on parle de faire des courses en France, ou est-ce qu'on parle de briller à très haut niveau? Ton équipe, Marc, aujourd'hui, elle souffre d'une chose, c'est de la concurrence déloyale fiscalement avec les autres grandes équipes. Si tu payais pas toutes ces charges, et si tu n'avais pas toutes ces taxes à payer en plus de tes adversaires principaux, parce qu'on fait un championnat dans lequel les règles sont pas les mêmes.
D'accord. Sauf donc, que le sujet du moment, ce qui fait qu'on entre dans une difficulté particulière, c'est qu'avant on était déjà dans la même situation fiscale, on était déjà dans la même situation d'organisation. Oui,
mais avant, en face, t'avais pas les États. Hein.
Sauf que la différence entre ce que sont nos budgets à nous et ce que sont le budget des équipes étatiques ou des mastodontes sponsors, c'est là que la différence s'est faite. C'est-à-dire qu'eux sont arrivés avec beaucoup plus d'argent. Avant, ils avaient à peu près comme nous, voire un peu plus, mais on arrivait à rester dans une concurrence. Maintenant, il y a quand même un élément qu'il faut prendre en compte. Aujourd'hui, il y a des grands, il y a des mastodontes qui arrivent.
Vous êtes adossé à des sponsors. Je veux dire, la Française des Jeux, c'est pas rien, ça.
Bah oui, ils sont avec moi depuis 30 ans.
Groupama, c'est solide. Total Energy, pour ne citer qu'un autre sponsor, c'est énorme. Décathlon, c'est énorme. On n'arrive pas à faire, à les faire cracher un peu plus au bassinet, tous ces gros sponsors.
Parce qu'aujourd'hui, nous, on est, nos sponsors en France sont dans une équation rationnelle. Ils investissent pour un retour sur investissement en termes d'image, en termes de notoriété, en termes de sympathie, etc. Et il y a un équilibre qui existe fort naturellement entre ce que les partenaires, que sont les Groupama, les Cofidis et autres, mettent dans le Nourin pour faire fonctionner une équipe. Il y a un retour sur investissement qui est évalué et quantifié. Si ce retour sur investissement est intéressant, ils peuvent se permettre de continuer. Si ce retour sur investissement n'est pas assuré,
pour qu'il soit,
on se retrouve en difficulté.
Il faut que on parle de vous, donc il faut que des coureurs viennent des courses.
Mais je garde quand même. Alors j'entends ce que vous dites et je partage en grande partie. Je garde quand même une note d'optimisme parce que la France a cette force, cette capacité, cette puissance à se régénérer et à perdurer dans le temps et à être un socle dur de notre sport. La France est quand même un socle dur du vélo. C'est ce qui lui permettra de passer le moment difficile.
Moi, j'ai une question. C'est du vélo ou des courses? C'est-à-dire, quand tu parles du Tour de France, est-ce qu'on a besoin vraiment d'une équipe française au Tour de France? On a besoin de Français qui performent. C'est-à-dire qu'en gros,
on a besoin de Français, mais on a besoin d'équipe française
quand
aussi.
Quand je regarde le Tour de France, moi, j'aime bien que le 14 juillet, il y ait un Français qui soit devant, etc., etc. Donc, une équipe française réellement.
Il y a quand même besoin d'équipe française.
Oui, mais mis à part mon cœur Cocorico, c'est quoi l'intérêt?
Cocorico est partagé par des millions de Français, quand même.
Mais évidemment, mais ce que je veux dire, c'est que quel est vraiment le problème s'il n'y avait plus d'équipe française? Les gens ne regardaient plus le Tour de France, tu penses? Si, ça ne changerait pas grand-chose. Sauf que là, on a des équipes qui performent avec des coureurs français qui peuvent performer de temps en temps, mais pas forcément dans les équipes françaises, en fait.
Clairement, médiatiquement, l'an prochain, si Lenny performe autant, voire plus quand il était chez toi, ça fera vibrer les Français pareil. Hein, qu'il soit chez Bahreïn ou chez...
Elle est où la différence là, par rapport à ça, Marc?
Je pense vraiment qu'il y a besoin d'équipe en France. Il y a besoin d'équipe en France et d'équipe française au départ du Tour. Il suffit de regarder un tout petit peu l'histoire. Qu'on soit d'accord ou non avec la politique menée par ASO, ASO a toujours veillé qu'il y ait un minimum d'équipes françaises au départ du Tour de France. Et je suis persuadé, j'en ai pas parlé avec eux, mais je suis persuadé que dans l'avenir proche, ce sera la même chose.
Oui, mais protéger, et j'en finis par là avec Jérôme, ça veut pas dire compétitif.
Ça veut pas protéger, dire compétitif.
Mais non, c'est ça, la problématique du sujet, même, elle est là.
Ça assure quand même un socle dur pour les équipes.
Et alors, est-ce qu'on peut pas
savoir ce qu'on veut? Si on veut des coureurs salariés avec un statut de salarié et des coureurs en grand nombre qui ont un statut et qui vont faire des courses professionnelles, Là, d'accord. Oui, mais là, si mais on veut des coureurs français,
la solution est simple, hein, c'est d'avoir d'adapter
la législation.
La législation. Sauf qu'aujourd'hui, on est en France, dans un pays, on est quand même dans un pays qui est en grande difficulté économique. Je vois mal un ministre des Sports ou un premier ministre dire on va exonérer de charges le sport français. Hein, pas rêver.
Organiser aussi, autoriser les équipes à faire des recettes sur les courses, notamment organiser des choses autour du Tour de France, pouvoir non plus payer des choses, mais en gagner.
C'est pas ça qui fera le
gain. C'est des petits. Instaurer aussi des transferts. Pourquoi pas instaurer un salarié cap C'est à l'UCI de penser à ça. Les transferts, Marc, t'es le premier en première ligne. Si demain il y a des transferts dans le vélo, tu peux signer ton coureur plus longtemps à cause de cette règle de l'UCI qui dit si on peut pas signer plus longtemps que le partenaire principal. Si ça change, tu peux faire signer Lenny Martinez 6 ans, 8 ans, et quand ils te le veulent au bout de 4 ans, tu les fais cracher au bassinet. Faut pas avoir honte de faire un système qui existe aussi dans le football, mais bien qui sûr. Te ramènera des ronds.
Et qui permet encore au club français d'exister en matière de football. Alors, le vélo, il y a pas à dire que toi, tu formes
c'est pas dans les mœurs,
tu formes les jeunes,
à un moment donné on crève,
et ensuite tu te fais piller par les grandes écuries qui elles ne forment pas grand chose mais qui vont se servir chez les uns et les autres sans avoir rien à payer, quoi.
Est-ce que tu veux des transferts, là? Est-ce que tu dis maintenant
moi je suis pas arc-bouté sur l'histoire des transferts. Moi je suis plus favorable à un budget cap avec des règles de fonctionnement.
Mais est-ce que tu crois qu'ils vont les respecter?
Ça existe en basket.
Ah oui, sauf que nous, on a une luxury tax, c'est-à-dire que tu peux le dépasser, tu payes un peu plus, mais tu peux le dépasser. Quand c'est un État qui dirige, ils s'en foutent de dépasser le budget, en fait.
Solution, est-ce qu'il ne serait pas possible d'avoir des sponsors français, mais d'avoir une structure, un siège social, finalement, qui soit à l'étranger? Ça, c'est pas possible?
Ça, c'est peut-être possible, mais c'est difficile à entendre pour certains sponsors.
Eh ben c'est la solution pourtant. Oui. La problématique, elle est là. Et il faudrait que demain, on n'ait pas honte de dire moi, mon siège, il est au Luxembourg et en Belgique. Mon siège sportif
Uber
est en France.
Bonne idée. Il faudrait que toutes les équipes soient installées au niveau juridique dans le même pays.
Évidemment, mais vous savez qu'au niveau de l'image, en France, ça risque d'être compliqué à faire passer.
Avec l'image, on va finir par crever.